Aux trois éléphants. Nouvelle de Loris Muraille. Édition Souffle du rêve. Aux trois éléphants. Monsieur, permettez-moi de répondre tout d'abord à votre dernière question. Je pratique en effet l'achat et la vente. Étant installé à la même adresse depuis 37 ans, je pense être assez connu dans la profession. L'expertise fait évidemment partie du métier et je suis bien sûr disposé à vous rendre ce service à titre gracieux. Cependant, il m'est difficile de me prononcer à partir de la description que vous me fournissez. Je ne doute pas que vous sachiez compter jusqu'à trois. Je suis néanmoins dans l'obligation de vous certifier qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de reliure aux trois éléphants. Quand il y a un éléphant, il est situé en haut à gauche. Quand il y en a deux, ils encadrent le médaillon rectangulaire en haut du cartonnage. La tête est vue de face. Je vous suggère de vérifier que nous parlons bien du même animal. On le reconnaît à sa trompe, en l'occurrence de belle longueur. Aucune confusion a priori ne me semble possible. Monsieur, vous avez cru déceler un peu de moquerie dans ma réponse. Croyez bien que j'en suis désolé. Naturellement, vous savez reconnaître un éléphant et vous savez compter jusqu'à trois. Je vous accorde qu'il se produit parfois des erreurs lors de l'impression d'un ouvrage. Ainsi, vous en trouverez qui sont reliés à l'envers et s'ouvrent sur la dernière page, ce qui ne leur ajoute d'ailleurs aucune valeur, bien au contraire. Mais l'idée qu'on ait pu ajouter par mégarde un éléphant sur la couverture me paraît peu plausible. Votre comparaison avec le 5 pesos non dentelé du Mexique est amusante, mais ne me paraît guère pertinente. Monsieur, voici ci-jointe, à votre demande, la liste des divers cartonnages. Vous voyez qu'elle est déjà assez longue. Encore ne s'agit-il que des grands in-huitièmes, les autres n'étant guère recherchés. En vérité, je ne vous signale que les plus fréquents. La cote indiquée peut varier selon divers critères, notamment l'état du volume. Vous remarquerez que les éditions originales ne sont pas forcément les plus rares. Les amateurs collectionnent de préférence les cartonnages polychromes. Certaines séries ont fait l'objet de fort petits tirages, ce qui justifie leur coût élevé. Ainsi, les exemplaires aux initiales, JV et JH, qu'on appelle des jumeaux. Ce sont des volumes doubles séparés en deux et vendus sous la forme de deux simples, une vulgaire opération commerciale à l'origine destinée à écouler des stocks d'invendus. Je vous avoue quant à moi un faible pour la sphère armillaire, figurant le mouvement des astres autour de la Terre. Le steamer reste très populaire, il est beau, abordable mais pas donné et facile à dénicher. Que demander de plus ? Cher monsieur, je vois que vous avez lu ma modeste documentation avec la plus extrême attention. Et cette fois, je vous l'accorde, il existe bien un cas qu'on pourrait rapprocher de votre fameux 5 pesos non dentelé du Mexique. Mais il s'agit d'une illustration intérieure. L'infortuné Ryu a en effet commis une erreur funeste en dessinant le lancement du vaisseau avec la proue en avant. Les volumes ont été retirés du commerce et une nouvelle édition a été mise sur le marché après rectification. Il y a quelques années, l'un de nos grands dictionnaires populaires comportait une planche où je ne sais quel champignon mortel figurait parmi les comestibles. Voilà qui était autrement plus embarrassant. Pour ce qui est de notre troisième éléphant, je persiste dans le doute. Puisque vous vous proposez de m'envoyer une reproduction, je pense en avoir bientôt le cœur net. À part ça, si d'aventure le dénicheur de rareté que vous êtes croise un exemplaire du proue en avant, sachez que je suis preneur. Et pendant que vous en serez à fouiller votre collection, je recherche aussi un sans dessus dessous avec hors texte en couleur. Cher monsieur, bon, d'accord, il y a bien trois éléphants. Mais vous avouerez que la reproduction n'est pas formidable et que rien ne permet de déterminer s'il ne s'agit pas d'un montage, bref, d'un canular. Dommage surtout que votre photocopie soit en noir et blanc. J'aurais parié pourtant que notre troisième éléphant allait être rose. Je sais que vous n'habitez pas tout près d'ici, mais si vous avez l'occasion de passer au magasin avec votre incunable, je suggère que nous décollions ensemble la petite pastille, trompe comprise. Et si elle résiste à nos efforts, je vous offre le champagne, ainsi qu'une belle somme pour l'achat de l'ouvrage. Cher monsieur, j'ai bien cru devant ce long silence que ma dernière réponse vous avait froissé. Je ne vous prends ni pour un menteur, ni pour un faussaire. simplement pour la victime d'une mauvaise plaisanterie. Voilà que vous me parlez de votre oncle pour la première fois. Apparemment, ce brave homme était un sacré farceur. Oui, visiblement, plutôt un farceur qu'un faussaire. Ou alors dans le genre de ce faux monnayeur distrait qui fabrique un billet de 90. Vous connaissez l'histoire ? Pas démonté, il se rend au guichet de la banque pour l'échanger. Et le caissier lui demande « Qu'est-ce que vous préférez ? 3 billets de 30 ou 6 de 15 ?» C'est à ça que me font penser vos trois éléphants. Il faut dire aussi que vous deviez être un enfant bien naïf. Tiens, ça me rappelle une autre histoire, une vraie celle-là, qui me concerne. Quand j'étais môme, mon frère faisait disparaître des objets. Il les plaçait dans un tiroir, nous sortions de la pièce et hop, ils disparaissaient. J'oublie de préciser qu'à chaque fois, il allait vérifier le premier et, alors seulement, m'appelait pour me faire constater le prodige. Votre oncle était beaucoup plus fort, j'en conviens. La porte, le rideau de fumée et pfuit, plus d'oncle, pas mal. Les enfants peuvent tous se montrer d'une infinie crédulité, mais je ne pense pas en avoir jamais rencontré d'aussi patients que vous. En tout cas, de nos jours, ça ne marcherait plus. Les gosses d'aujourd'hui ne tiennent pas en place. Alors, attendre pendant des heures que l'oncle untel ait fini de lire, vous imaginez. Évidemment qu'il lui était interdit de sortir des livres de sa mystérieuse bibliothèque. Pardi, je me demande bien ce qu'il fabriquait pendant que vous montiez la garde. Pour en revenir à des considérations plus sérieuses, je vous communique les quelques éléments que vous désiriez connaître. L'ouvrage est en in huitième double, je laisse le côté le in 18e qui fut publié en 2 volumes. En principe, vous voyez, je deviens prudent, il comporte 434 pages et 111 illustrations. Il se termine par le célèbre paragraphe, je l'espère, j'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer dans son gouffre le plus terrible, etc. Cher monsieur, croyez bien que je ne désirais nullement offenser la mémoire de votre oncle. Je n'avais pas compris, je vous le confesse, que sa fin avait été aussi brutale et tragique. Comment en dire plus sans vous blesser davantage? Je suis pourtant sincèrement navré de vous voir ainsi accablé par le remords. Mais, si je vous certifie que vous vous tourmentez pour rien, vous allez me reprocher encore de mettre vos propos en doute. Exactement comme vous avez vous-même fini par douter. Bien sûr, cette histoire de bibliothèque secrète ne pouvait vous abuser éternellement. Et n'importe qui à votre place aurait demandé des preuves. C'est ainsi qu'est né le troisième éléphant. Vous aviez enfin en main un de ces livres interdits qui en aucun cas ne pouvait sortir de la bibliothèque. Votre oncle était un génie de la mystification. Convenez-en, je vous en prie. Eh bien, soit, vous possédez un cartonnage aux trois éléphants, un volume de 512 pages et 137 illustrations, qui ne s'achève pas par, je l'espère, j'espère également, etc. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup lire ce qui suit. Une rencontre avec Lidenbrock, vraiment? Le professeur et le capitaine? La lave et le maelstrom? Quelle idée extraordinaire! Enfin, je serai bientôt fixé. Je me réjouis que vous vous proposiez de faire prochainement un détour par ma boutique. Et, si je ne parviens pas à démonter devant vos yeux la supercherie, pardon d'avance, sachez que le champagne est au frais et que je trinquerai avec vous pour célébrer l'ingéniosité d'un homme comme on n'en fait plus. Cher ami, encore navré pour le champagne, il n'était pas très frais. Sachez que le collectionneur américain que vous avez rencontré dans la boutique s'obstine. Il propose à présent 12 000 $. Vous me connaissez. Je n'ai pu m'empêcher de lui expliquer longuement que je ne pouvais d'aucune façon lui garantir l'authenticité de l'ouvrage. Certes, certes, cartonnage et papier semblent d'époque, les illustrations supplémentaires sont indéniablement dans le style de l'artiste et le texte ajouté lui-même, quoique diablement surprenant, porte sans conteste l'empreinte de notre génial auteur. Néanmoins, je ne puis me résoudre à admettre qu'il n'y ait pas derrière tout cela quelque supercherie diabolique. Qu'importe. L'Américain se considère avant tout comme un amateur de rareté. Et, puisqu'il n'exige de moi aucun certificat, aucune expertise, je ne vois pas pourquoi je ne vous transmettrai pas sa proposition. Il se dit même disposé à offrir d'aussi belles liasses de dollars si par extraordinaire il se trouve dans votre collection d'autres singularités de cette sorte. Cher ami, j'ignorais que vous aviez hérité de la maison de votre oncle et pas seulement de sa si curieuse bibliothèque. Mais quand vous me dites qu'il y a toujours ce rideau de fumée derrière la porte interdite, j'ai peine à croire que vous n'essayez pas de me faire marcher. J'ai toujours l'impression en vous lisant que vous tentez de tester les limites de ma crédulité. Force m'est de reconnaître que vous avez récemment remporté la première manche, sans parvenir à vaincre ma perplexité. Pas d'inquiétude au sujet du collectionneur américain. Je suis en relation avec lui depuis longtemps. Il est solvable et digne de confiance. Une question me turlupine malgré tout. Qui montera la garde devant la porte quand vous aurez franchi le rideau de fumée? Cher ami, inutile de vous dire que la description que vous me fournissez des ouvrages que vous avez pêchés de l'autre côté me stupéfie. J'avoue que j'attends votre visite avec la plus grande impatience. Ou plutôt non, ne bougez pas. Cette fois, c'est moi qui me déplacerai. Croyez-vous que nous pourrons faire ensemble une petite visite chez votre oncle? Madame, c'est avec consternation que j'ai appris par votre lettre la fin brutale et tragique de votre mari. Comme vous l'avez compris, en mettant de l'ordre dans son courrier, j'étais depuis quelques mois en relation avec lui à propos d'un certain ouvrage qu'il possédait. Et je crois pouvoir affirmer que nous avions fini par nouer de véritables liens d'amitié. Il est vrai que j'avais trouvé pour ce livre un acquéreur américain. Mais je crois qu'il serait désormais préférable de renoncer à cette transaction. Si je peux me permettre de vous donner un avis que vous n'avez pas sollicité, je pense même qu'il vaudrait mieux détruire ce volume ainsi que ceux que vous avez retrouvés auprès de votre mari dans la maison de son oncle. Il m'est difficile de m'en expliquer dans cette lettre. Aussi me contenterai-je de citer à mon tour l'Ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme. Face à cette question, l'auteur concluait. Deux hommes, entre tous les hommes, ont le droit de répondre maintenant, le capitaine Nemo et moi. En réalité, à cet instant, le narrateur craignait bien d'être désormais le seul à pouvoir répondre. Quant à moi, qui, aujourd'hui, ne puis plus écrire, je l'espère, j'en suis hélas convaincu.